Bonjour, je m'appelle Zanzi, je viens de Chengdu en Chine. Je vous souhaite bonne écoute de Radio Campus, Université de Lille.
像雨滴渗入我的爱里，真希望雨能下不停，让想念继续，让爱变透明，我爱上给我勇气的人，你了。窗外的雨滴一滴滴累积，无奈的事情想出存爱你的情，真希望消失无形，离开你我安静的城里，不愿揭晓的剧情，我的泪留在心里，学会放弃，听你的声音一滴滴清晰，你的呼吸像雨滴渗入我的爱里，真希望雨能下不想念继续，让爱变透明，我爱上给我勇气的人，你了。窗外的雨滴一滴滴累积，无奈的事情想储存爱你的记忆，真希望雨能下不停，与爱的秘密能一直延续，我相信
有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。
Eh oui, une très belle chanson chinoise pour démarrer cette émission de Chine. Comme chaque premier samedi du mois, nous sommes le 4 juin en direct.
深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。
Alors aujourd'hui, nous avons une émission spéciale en Indochine, bien sûr, hein, consacrée à la Chine comme chaque fois, bien sûr aussi, et spécialement aujourd'hui à la province donc, du Shaanxi et de la ville de Xi'an et de son environnement. Pour parler de ce sujet, eh bien, j'ai invité un spécialiste, puisqu'il s'agit de M. Li Huan, qui est président de l'association France Shaanxi et représentant général du département de commerce de la province du Shaanxi en France. Bonjour, M. Li Huan.
Bonjour, René. Bonjour, cher auditeur.
Voilà, donc nous sommes aussi avec M. Guo Guanghan. Bonjour Guo Guang.
Bonjour.
Comment va ?
Ça va très bien.
Donc on se retrouve Guo Guang pratiquement depuis plusieurs mois maintenant, chaque premier
tous
samedi
mois.
Du mois, avec des thèmes différents. Et donc aujourd'hui c'est un thème, bon tu n'es pas complètement spécialiste, mais bien sûr on ne peut pas quand on est chinois ignorer Xi'an et l'aventure de cet endroit assez fabuleux historiquement et puis aussi maintenant cette province très très originale par rapport aux autres. Alors, Monsieur Li Huan, donc peut-être qu'on peut faire un petit état des lieux de votre activité, peut-être, si vous le voulez bien.
Oui, bonjour, chers auditeurs. Je suis Huan Li, donc je suis un Chinois. Un chinois, ça fait 20 ans que je vis à Lille, et mon activité consiste à aider les entreprises françaises à s'établir en Chine, et l'inverse, et puis une mission concernant la représentation de la province du Shaanxi, donc je suis originaire de Xi'an, par mon activité de consultant, j'aide en fait le département du commerce de la province du Shaanxi à se propager, à se faire connaître en France et en vue de avoir plus d'activités et d'entreprises françaises qui seront développées.
Donc la province du Shaanxi, elle est célèbre pour les touristes, on va dire, pour les Français peut-être, par le fait que ce soit le berceau de plusieurs dynasties et avec des traces encore visibles, des tombes et des mausolées, etc.
Oui, effectivement, Shaanxi se situe au centre de la Chine, qui est lui-même un berceau de la civilisation chinoise. Nous avons beaucoup de monuments, comme vous l'avez cité, par exemple l'armée en terre cuite qu'on peut visiter encore aujourd'hui, et puis d'autres sites intéressants. En plus, c'est une ville extrêmement dynamique en termes d'industrie et innovation. C'est un centre étudiant. Nous avons plus de 1,5 million d'étudiants dans la province, qui constitue en fait une réservoir de matière grise pour le développement des domaines scientifiques.
On se retrouve après un petit peu de musique, après avoir engagé cette conversation, donc musique chinoise bien sûr, sur Radio Campus 106.6 FM.
想你是你在天边。
Voilà, beaucoup de belles chansons en Chine. Peut-être qu'à Xi'an, on chante beaucoup dans des lieux avec des amis.
On chante, après vous avez plusieurs façons de chanter. Vous pouvez chanter l'opéra traditionnel, oui. C'est plutôt pour les personnes âgées et les amateurs. Ensuite vous pouvez chanter le karaoké, comme partout en Chine, les chansons plutôt modernes, les pop music. Vous pouvez chanter aussi le folk, qui est très développé en fait dans le nord-ouest de la Chine, les chants qu'on chante dans les montagnes, sur le fleuve jaune, voilà, c'était, on est très chantant comme région, je pense. Ouais.
Alors, je voyais il y a une quinzaine d'années beaucoup de gens dans les parcs qui chantaient, et puis aussi des vieux musiciens qui venaient le soir jouer là. Il y en a un peu moins maintenant.
Non, il y en a toujours, très populaire, dans les parcs, à côté des remparts, dans le parc, tout au long des remparts. Après, dans les parcs aussi, en fait, c'est un, comment dire, une sorte d'amusement public avec, ils vont chanter des petits morceaux, c'est-à-dire, ils ne sont pas tous professionnels. Des gens vont jouer des instruments traditionnels, après, les chanteurs vont chanter un petit morceau, après, ils vont faire une pause, d'autres vont chanter, d'autres chantent mieux que les autres, après les gens applaudissent, enfin là c'est assez amusant et assez populaire.
Alors on voyait ces personnes qui jouaient avec des instruments traditionnels, est-ce que les jeunes continuent d'apprendre ces instruments ?
Il y en a, mais je pense que malheureusement nous sommes dans une société qui se développe, qui se modernise tellement vite que les jeunes prennent coup plutôt aux instruments occidentaux ou alors à piano, ce genre de choses, ou les guitares à la mode, tandis que les instruments traditionnels, bon, c'est un peu, pour eux, hein, pour les jeunes aujourd'hui, c'est un peu vieillard. Malgré des efforts, malgré la communication, etc., pour attirer les jeunes vers ce secteur, je pense qu'un peu comme les chants traditionnels en France, les folk, etc., c'est toujours quelque chose qu'on prend de plus en plus d'un angle plutôt des objets de musée. On le voit, mais c'est vrai que la plupart des jeunes s'intéressent aux choses modernes.
Alors, on connaît bien, je pense, en France, parce qu'on a vu des films là-dessus, l'opéra de Pékin. On connaît mal l'opéra de Shanxi.
Oui, l'opéra de Shanxi, en Chine, on dit l'opéra de Shanxi, c'est la souche, c'est les ancêtres de tous les opéras de Chine, par son histoire et par son style. Le style est un peu différent de l'opéra de Pékin. L'opéra de Pékin est d'origine, en fait, plutôt de la province de Anhui, et plutôt dans le style du sud de la Chine, qui est plus raffiné. Tandis que le chant de l'opéra de Shanxi, on appelle Qinqiang en chinois, Qin, c'est le nom de la dynastie Qin, c'est l'abréviation, le nom simple de la province de Shanxi. Qinqiang veut dire le chant de Qin ou la musique de Qin. En fait, c'est un style très ancien, alors qu'on chante très très fort. En chantant, on dit c'est le rock chinois, parce qu'on peut casser la voix. En fait, on a des chants extrêmement forts, assez particuliers.
Alors, j'ai vu aussi des opéras, on peut dire ça comme ça, des grandes scènes avec des paysans, avec des bancs, des chaises, qui faisaient beaucoup de bruit.
Oui, c'est ce qu'on appelle le huayin laoqiang, c'est-à-dire haute chant, les anciens, le vieux chant de huayin. En fait, c'est dans les montagnes de Huashan, c'est l'une des plus grandes montagnes en Chine, assez connue touristiquement, et puis, ce sont des gens qui vont chanter avec des chaises, avec des briques, qui vont donner des coups sur les chaises, faire du bruit, et puis avec des instruments aussi, instruments à cordes. Ensuite, c'est des chants très très forts.
C'est très impressionnant. Hein, c'est...
Absolument.
C'est à voir une fois dans sa vie quand même.
On avait essayé de organiser en fait avant le Covid, de penser de faire en fait de ce genre de show en France. Peut-être après le Covid, on va continuer à explorer le projet. Mais effectivement, c'est assez amusant, même si on comprend pas les paroles. C'est toujours un style particulier. Vous verrez que les Chinois sont pas tous des gens très sages, très littéraires. En plus, ce sont des gens très expressifs dans les chants et dans les gestes.
Alors, Donc, on a bien compris que cette région, et notamment la ville de Xi'an, avait un autre nom avant, c'est
Chang'an.
Et donc, c'est l'ancienne capitale de la Chine qui, elle-même, a été irriguée par l'empereur Qin Huangdi,
Huangdi,
qui a fait déplacer une population de l'ouest du Shaanxi vers Xi'an.
C'est-à-dire, c'est toujours dans la dynastie Qing, c'est dans la ville, mais c'est un peu à côté de l'ouest de la ville. Ça s'appelle Xianyang à l'époque, la capitale. Et puis le Chang'an, c'est vraiment pris le nom de dynastie Han. Il s'appelait Chang'an. Chang'an veut dire la tranquillité perpétuelle ou long terme. En Chine ancienne, nous avons toujours affronté en fait les ennemis nomades, les Mongols et les ancêtres des Mongols, les tribus plutôt nomades. Donc du coup en fait le capitale doit être à côté du champ de bataille pour donner des ordres et pour organiser le front. Donc du coup c'est toujours proche du où il y a des ennemis éventuels. Donc pour donner à la fois cette fonction de quartier général et à la fois garder en fait la tranquillité, donc on avait conservé un lieu proche du front, mais on souhaite sa tranquillité perpétuelle. Du coup, Chang'an, c'est le nom ancien de la Chine qui est utilisé pendant les Han aussi, les Tang, et jusqu'à avant, il y a 100 ans, on l'appelait Xi'an, on a utilisé un nom tranquillité à l'ouest, mais c'est toujours cette notion en fait de tranquillité, parce qu'on est un lieu de confrontation, de mélange, de brassage en fait de Han et des autres minorités, les Mongols, les musulmans, etc. C'est un lieu toujours de rencontre.
Alors, c'est vrai que Qin, on va dire, est arrivé un peu avant Jésus-Christ, c'est ça? La période pour notre référence.
Oui, c'est effectivement le Qin, c'est 200 avant Jésus-Christ, 200-300 avant Jésus-Christ. Mmh. Oui.
Et à cette époque-là, il y avait déjà, enfin, j'ai pu voir des musées où on voit une certaine culture, voire une élégance dans les cours impériales.
Effectivement, c'est très raffiné. Bon, c'est la classe supérieure, hein. c'est ceux qui concentrent enfin un peu les richesses du pays, puis qui se donne une vie meilleure que les autres, mais à l'époque déjà ils sont influencés par l'art de style gréco-romaine. Vous savez l'armée en terre cuite, oui. qui fait partie du tombeau de premier empereur Qin Shi Huangdi de Chine, de la dynastie Qing. On disait que parce que avant les autres arts à l'époque, c'est plutôt un art brut, surtout dans les statues, tandis que les statues de soldats sont assez réalistes. Et ce réalisme, il est un peu en contradiction avec en fait les autres arts de l'époque. Et ça vient, selon les spécialistes, les archéologues, ils pensent que ça vient de l'Europe, ça vient des influences en fait de Grèce. Donc vous savez que les échanges entre nous, entre les peuples, entre les civilisations, ça date de plus de 2000 ans.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu la route de la soie, et la route de la soie qui arrive à Xi'an, et donc ça a beaucoup changé la donne, enfin ça a amené beaucoup de choses, de richesses aussi.
Dirais que c'est pas la route de la soie qui arrive à Xi'an, c'est plutôt Xi'an qui avait démarré cette route de la soie. En fait, la route de la soie, en fait, c'est beaucoup d'échanges entre l'Europe et l'Asie, et c'est pas une route. En fait, c'est un nom qu'on a donné à ces échanges. Ces routes-là existent depuis peut-être 2000, 2500, 3000 ans, peut-être, on sait pas. Mais c'est vrai que c'est depuis la dynastie des Han qu'on avait voulu faire en fait cette route, une route d'échange commercial et civilisationnel, une route de paix et de prospérité. Donc ils ont volontairement voulu en fait garantir la paix sur cette route jusqu'à l'Asie centrale, jusqu'à Xinjiang d'aujourd'hui et vers l'ouest encore. Donc pour en fait permettre aux commerçants européens, perses, chinois, de pouvoir échanger de façon calme et sécurisée.
Alors, c'est justement avec cette route que sont arrivés les musulmans, notamment à Xi'an, qui est une grande ville avec sa grande mosquée. Enfin, il y a même deux mosquées dans le centre musulman, de quartier musulman de la ville.
Oui, avant de parler musulmans, on avait parlé de le christianisme aussi. Le christianisme est aussi arrivé de cette époque-là, depuis l'Asie centrale et depuis Moyen-Orient. Et puis l'islam aussi. On a dans la centre-ville de Xi'an un quartier musulman, en fait, qui sont arrivés depuis la dynastie Tang, c'est 1500 ans avant après Jésus-Christ, enfin 1500, 500 après Jésus-Christ, pardon. Il y a 1500 ans d'ici aujourd'hui. Et puis la plus grande mosquée, ce qui m'impressionne moi, en fait, c'est ce brassage culturel de l'extérieur. On dirait que c'est un temple taoïste ou bouddhiste. Par contre, si on rentre dedans, les écritures, les inscriptions dessus sont en arabe. Mmh. Et puis la grande salle de prière, on dirait une grande salle de temple taoïste. Par contre, quand on rentre dedans, les murs sont avec des morceaux de bois, de stèles en bois, en fait, gravés de Coran en chinois et en arabe. Et là-dedans, on peut compter jusqu'à 2000 personnes pour prier ensemble. C'est assez impressionnant à voir dans sa vie.
Donc, ce quartier musulman est très connu par les Chinois, et notamment par les touristes aussi qui viennent. C'est pratiquement un passage obligé. Quand on vient à Xi'an et quand on vient en Chine, forcément, on va à Xi'an quand on a un parcours. Hein. Et donc, ce quartier est vraiment beaucoup visité. C'est un lieu de, on va dire, d'interpénétration entre les différents peuples, quoi.
Oui, effectivement, on dit que pour voir une Chine de 5000 ans, il faut aller à Xi'an. Pour voir une Chine de 1000 ans, il faut aller à Pékin. Pour voir une Chine de 100 ans, il faut aller à Shanghai. Pour voir une Chine de 30 ans, il faut aller à Shenzhen. Et pour visiter une Chine ancienne, c'est vrai qu'on avait la ville a voulu conserver en fait cette partie ancienne des ruelles, style traditionnel, style ancienne. On restaurait en fait une partie des rues un peu, je dirais, cassées, un peu détruites avec le temps. Hein. Maintenant, on avait restauré ces petites ruelles. Et c'est assez amusant de voir en fait tous les objets. En fait, c'est le quartier musulman. C'est la rue, surtout le quartier, derrière la tour des tambours. Parce que le matin, on sonne la cloche et le soir, on sonne le tambour pour ouvrir et fermer la porte de la ville, des remparts. Donc, c'était juste dans ce quartier-là, très très animé, des aliments, des petits objets, des bibelots, des spécialistes, des spécialités à manger, à coûter, à emmener comme souvenir assez sympa.
Voilà, donc il y a des places célèbres, hein. Ranjou Paomo, par exemple.
Oui, Ranjou Paomo, effectivement, c'est du pain, du pain non fermenté qu'on fait cuire dans un bouillon fait avec du mouton. Voyez, cette façon de faire, c'est déjà assez proche de ce qu'on fait en Asie centrale, en fait, de cuire du pain dans la soupe. Et assez relevé. Je pense que ça vaudra le coup d'en coûter une
bien
fois.
Sûr, oui.
Tout le monde n'aime pas, en Chine on dit tout le monde n'aime pas, soit on a tort, soit on déteste.
Alors il faut couper la galette à la main, c'est mieux.
Effectivement, c'est un moment de rituel, un moment d'échange. Mmh. Quand des hommes d'affaires, les amis se rencontrent, le moment où on va déchirer le pain à la main pendant 20 minutes, une demi-heure, c'est le moment d'échange. Par contre, une fois après, il est cuit, après, le serveur va emmener à la cuisine ce que vous avez déchiré à la main, et puis le cuisinier va cuire, en fait, le pain en fonction de la taille de votre, ce que vous aimez bien. Oui. Parce que si c'est très bien, c'est très petit, il va cuire un temps plutôt court. Si c'est un peu long, si c'est un peu grand, bah c'est un peu difficile à cuire. Ça veut dire le mec, il aime bien, la personne aime bien le bouillon un peu plus longtemps, pendant plus longtemps. Donc c'est un échange entre la personne qui déchire le pain et le cuisinier qui va cuire le pain.
Alors bien sûr, dans ce quartier, il y a énormément d'épices, de choses comme ça. Hein,
ouais, beaucoup. Ouais, ça sent même dans la rue, on sent le parfum.
Et dans la ville, alors partout, on va dire que c'est peut-être la capitale culinaire, hein, des nouilles.
Oui, des nouilles aussi. On fait beaucoup ça, les nouilles à la main. Surtout, ce qui est plus connu, ce qu'on appelle nouilles ceinture. En fait, c'est à peu près 5-6 cm de largeur, très fin. Mais très long. En fait, chaque fois, on va faire une nouille. La nouille va faire à peu près un mètre, voire un peu plus. En fait, chaque fois, on demande combien de nouilles il en faut. Bah, une ou deux. En fait, ça suffit pour faire tout le pôle. Après, on met de l'huile très chaude sur des épices et on va couvrir, en fait, de nouilles, des épices, des ciboulettes, des ciboules et des ingrédients. Et puis, on met de l'huile très chaude dessus pour donner un parfum. Et ensuite, on mélange dans le pôle. Souvent, on met des pôles assez grands, impressionnants, avec le diamètre jusqu'à 30-40 centimètres.
Voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir faim pour tout terminer. Hein.
Après, on remplit pas non plus le bol. On fait juste le style avec le grand bol, mais on fait remplir à moitié.
Mais quand même, c'est copieux et il faut tout manger. Hein. Autrement, on ne jette pas. Hein.
Oui, après, on peut toujours demander à emporter. Hein.
Oui, c'est vrai. Alors ça, j'ai vu aussi cette coutume qui est, on va au restaurant quand on va au restaurant, mais on en ramène la moitié pour le soir, chez soi ou le lendemain.
Tout dépend si on reste. Si on a très faim, on n'a rien à emmener. Mm-hmm. Ce sera, il n'y a pas d'emporter. Mais c'est vrai que qu'en France, on fait moins, j'ai l'impression.
En fait, nous, on a des traiteurs en France que là-bas. Il n'y a pas de traiteur, c'est directement le resto qui fournit.
Oui, il n'y a pas de, vraiment la fonction traiteur en Chine.
Ouais,
on peut appeler emporter.
En fait, le restaurant n'est pas plus cher que nos traiteurs, donc
oui, oui,
autant
aussi.
Aller au restaurant.
Oui, oui, non, mais pour les gens locaux, c'est à peu près le même niveau de consommation. Mmh, c'est vrai, d'un point de vue français, c'est pas cher du tout. Mais je pense que c'est aussi l'habitude. C'est-à-dire, après le repas, est-ce qu'on emmène avec nous ce qui reste dans l'assiette ou pas? Ça, je pense qu'en Chine, c'est plus pratiqué.
Oui.
En France, on en fait moins.
Ça commence parce que maintenant, il y a des modes hein, qui se développent. Ouais. Hein.
Je pense que c'est très bien.
Oui,
parce qu'on va justement devant nous une grande crise alimentaire là, qui va arriver,
sûr,
je pense, avec les guerres, avec l'inflation, etc., avec le temps. Je pense que c'est pas jamais trop tard
c'est
de commencer
pas le moment
à...
de gâcher.
Ouais, c'est pas bon le cacher.
Alors, vous êtes aussi un spécialiste de l'économie.
Principalement.
Et comment cette région-là se démarque par rapport aux autres provinces de Chine?
Je pense qu'il y a un point important, c'est sa position géographique, parce que Shaanxi, il est pile poil au centre de la Chine. Donc, quand vous faites logistique, vous savez que c'est très très c'est le point central qui sera le plus économique. Donc, nous avons un aéroport qui emmène toutes les villes de Chine, et puis c'est classé le top 10 aéroports de Chine. Et aussi, nous avons un train qui va de Xi'an jusqu'à Porto, jusqu'à Lyon, jusqu'à Paris, opéré entre les compagnies chinoises de la ville et aussi avec SNCF. Donc on a ce lien terrestre aussi, avion. Nous avons un avion qui reliait Paris et Xi'an avant le Covid. Après, on a arrêté pendant la crise.
C'était très pratique. Hein.
C'est très pratique. C'est une grande ville. 13 millions d'habitants, c'est une grande métropole internationalisée. Sur son économie, d'abord, je parle de géographie. Après, il y a les secteurs innovants. C'est-à-dire, nous avons un très grand secteur innovant. Il y a 1,5 million d'étudiants dans la province. Donc, c'est un grand réservoir de matière grise pour le développement dans tout le secteur électronique, la santé, énergie, télécommunication, TIC, la santé, qu'est-ce que j'ai parlé, et puis textile. Il y a beaucoup de secteurs, en fait, d'innovation qui demandent de travailleurs qualifiés et aussi pour marcher. Donc, c'est super, je pense, pour les entreprises qui souhaitent développer le marché intérieur de la Chine. Il y a beaucoup d'entreprises qui vient en fait de la région de Shanghai ou de Shenzhen, qui transfèrent leur production ou leur centre de recherche à Xi'an. Notamment, le centre mondial de production de processeurs de Samsung se trouve à Xi'an. Donc c'est très dynamique, très innovant, et à la fois nous sommes dans la tradition et dans la modernité.
Alors, j'ai vu dans les années 2018-19 arriver des bières belges. Il paraît qu'il y a des zones franches où il y a moins de taxes, hein. C'est possible?
Oui, c'est ça, nous avons en fait ces zones qu'on appelle free trade. En fait, c'est une fois on paye quasiment pas de taxes frontalières. On appelle le commerce transfrontalier. En fait, quand on achète, chaque personne a un quota par an. Si on dépasse pas ce quota, tout est sans taxes, en fait. On peut les consommer tous les produits possibles, les aliments européens, français notamment, les bières, le vin, etc. C'est assez pratique pour la consommation, parce que ce commerce existe depuis long terme, mais c'est pas réglementé. Donc maintenant, l'État pense que c'est bien pour la population de consommer de façon plus économique les produits importés, et puis pour canaliser un peu le commerce. Donc ils ont donné un quota à chacun, si je ne me trompe pas, c'est à peu près $5,000 par an pour consommer en fait ces commerces transfrontaliers.
Bon, cette absence de taxes à la frontière, c'est pas ça qui va poser un problème à la balance commerciale chinoise.
du tout. C'est des consommations courantes. En fait, la plupart des de produits importés sont des produits industriels, des produits de base, de aliments. C'est pas ce qui ou les cosmétiques, c'est pas le plus important. Mm. C'est que quand on apporte un Airbus, c'est ça qui va peser sur le balance commerciale.
C'est certain. Donc j'ai vu aussi à Xi'an, mais pas qu'à Xi'an, hein, de grosses infrastructures se développer, des autoroutes. Enfin, là, je crois que le troisième périphérique, c'est fini. Je ne sais pas s'ils vont faire un quatrième.
C'est en projet, oui, projet. Parce que la ville est grandie. Hein. Quand j'étais petit, on était sur une ville de 5 millions. Après, quand j'étais diplômé, quand j'ai fini mon lycée, on était 8 millions. Mmh. Et là, ça fait 20 ans que je vis en France. Le dernier chiffre, c'est 13 millions.
Alors, il y a un aéroport, il y a un projet de deuxième ou pas ?
C'est-à-dire, l'aéroport qu'on parle, avec terre, déjà 4 terminales.
Ah oui, c'est vrai.
En construction.
Ça suffit.
Ouais, donc, donc l'aéroport. Après, il y a d'autres aéroports plus petits, industriels, commerciaux ou militaires. Mais là, l'aéroport se trouve dans le nord-ouest de la ville. C'est un des plus grands aéroports de Chine. Et puis, les terminaux se construisent l'un après l'autre.
Donc, c'est Xianyang, c'est ça ?
Xianyang. Xianyang International Airport.
Mm-hmm. Et donc, en ce moment, l'activité des vols est un peu réduite avec le problème Covid.
Ouais, c'est surtout pour les voyageurs. Par contre, pour les marchandises, ça pompe toujours.
Mm-hmm. Et donc, pour la population de Xi'an, on peut dire qu'elle est nombreuse maintenant. Il y a beaucoup de jeunes à Xi'an.
Oui, beaucoup de jeunes.
Et beaucoup d'universités.
Beaucoup d'universités. Nous avons, en fait, comme je l'ai dit, une centaine d'établissements privés publics, donc enseignement supérieur, 1,5 million d'étudiants. Dans la province. À Xi'an, il y a 1 million. Et après, dans la province, il y a d'autres 500 000. Donc, ensemble, ça fait une grande communauté jeune, dynamique. Nous voyons, en fait, le rock, même le salsa, beaucoup d'activités, en fait, des jeunes qui...
Alors, on a construit beaucoup d'universités en périphérie pour accueillir en plus de monde, bien sûr.
Exactement. Parce que les anciennes universités, ils sont dans la ville. Du coup, c'est difficile de grandir parce qu'autour, le terrain, c'est très cher. Après, c'est rempli, déjà. Donc, on a fait, en dehors de la ville, des campus gigantesques, assez modernes, très modernes, très grands. C'est des petites villes, en fait.
Voilà, c'est pas encore les vacances pour les étudiants chinois, là.
Là, non, pas encore, dans un mois.
Dans un mois, oui. Et il faut quand même dire aux gens qui vont dans cette région qu'il fait chaud à partir de déjà maintenant. Hein,
Oui, il fait assez chaud, c'est à l'intérieur de la terre, hein, donc assez chaud en été, on peut aller jusqu'à 39-40, et puis assez froid en hiver, on peut aller jusqu'à moins 10. Mais bon, aujourd'hui, vous avez climatisation partout, et puis il y a des chauffages partout. Donc c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que moi, je suis né dans cette ville qui fait froid en hiver, mais quand je vais dans le sud de la Chine, j'ai senti plus froid que dans le nord.
Parce qu'il n'y a pas de chauffage.
Oui, ils n'ont pas de chauffage.
C'est interdit.
Du coup, quand les gens qui viennent du nord, ils ont l'habitude d'être dégrantés dans une pièce, ils enlèvent leur manteau, mais alors dans le sud, ils gardent leurs vêtements chauds même à la maison.
Voilà. Eh bien, Guo Gonghan, je te laisse la parole maintenant. Je suis sûr que tu as plein de questions à poser à notre invité, hein, qui s'appelle, je le rappelle, M. Li Huan, et qui est président de l'association France Shanxi.
Oui. Très bien. Donc, je pense que c'est une ville intéressante en Chine. Aujourd'hui, c'est le 4 juin. Je me rappelle, il y a 33 ans, j'ai passé à Xi'an pour un concours national d'aller à l'université Nankai. Donc, je connais bien cette ville. J'ai passé beaucoup de fois. D'ailleurs, mon fils aîné qui étudie à Xi'an. Voilà. Et Xi'an, donc, il faut savoir, donc, Xi'an, si on remontait avant Jésus-Christ, 1083 ans, donc, c'est le capitale de dynastie Zhou, c'est Xi Zhou, Zhou Ouest.
Le roi s'appelle donc Zhou Wenwang. C'est lui qui a créé le premier, on dit, c'est chef-lieu de la dynastie. Donc, on peut dire, Xi'an, il y a une, c'est une dynastie qui passe sur 13, officiellement, 13 dynasties à Xi'an. Mm-hmm. Et c'est dans l'historique, on peut dire, il y a 16, 17 dynasties à Xi'an, oui. La province Shaanxi, je pense que c'est une province très importante en Chine. Et d'abord, tout à l'heure, vous parlez, comme Li Huan parlait de la chanson, vous posez la question, les gens qui aiment bien chanter. Alors, la chanson populaire folk de nord de la province Shaanxi, on dit c'est Shanbei Minge. Quand j'étais jeune, quasiment tous les Chinois chantaient la chanson populaire de Shanbei. Et ensuite, donc, Shaanxi aussi, on peut dire c'est le Bexu de la communiste chinoise. Et quasiment le premier gouvernement soviétique de Chine qui a créé à Yan'an. Mmh. Donc Yan'an, donc c'est vraiment donc c'est. Alors c'est là qu'ils forment le communisme.
J'ai visité hein, Yan'an. Voilà. Ouais. Encore maintenant, on fait visiter beaucoup aux lycéens, etc., pour faire découvrir ce lieu historique qui a joué un rôle important dans les.
Bon, maintenant, ça va devenir lieu du tourisme. Bon, la province, d'autres points importants, donc c'est dans le. Bon, tout à l'heure, vous parlez de l'étudiant. Xi'an, c'est un des grands campus, centres de campus de la Chine. Il y a beaucoup d'universités, très recherchées dans l'aérospace. Voilà. Mm-hmm. Et quand je travaillais en Chine, j'ai déjà passé à Xi'an. Xi'an, donc, il y a une entreprise aéronautique voilà, à Yanliang. Aujourd'hui, qui est quasiment le grand avion chinois business, voilà. Commercial, donc, qui peut fabriquer à Xi'an. Voilà.
Oui, on voit, c'est la zone au sud, quand on sort de la ville.
Ouais.
Très, très grande zone. Hein. C'est bien marqué, hein, aérospatial, etc.
Tout à fait. Et puis, d'autres points, je voudrais rajouter aussi Xi'an. Donc, c'est la première ville qui a accueilli internationalement. On a créé une zone écologique à Xi'an. Ah, c'est à l'est de la dans la ville de Xi'an, qui a une zone quasiment écologique. Donc, on fait l'essai. Et parce que Xi'an, comme tout à l'heure vous avez dit, c'est très chaud. Et à l'époque, donc, il y a moins d'arbres. Donc, et c'est vraiment à partir de mars, quand le vent qui arrive, ça c'est épouvantable. Oui, épouvantable. Voilà.
Alors, au sud de Xi'an, il y a la montagne Xining, qui est très, très longue.
Qinling, oui, ouais. c'est le montagne père de la Chine qui coupe en fait la Chine nord et sud. On dit c'est la ligne qui sépare en fait.
Mais ça coupe l'eau aussi qui arrive, les nuages, tout ça.
Ouais.
Ça empêche peut-être.
Mais c'est là qui est séparé là, la Chine en deux parties, voilà, nord et sud. Voilà.
Oui, d'accord. Donc dans cette on va dire ce lieu est très touristique le week-end parce que tous les gens de la ville sortent dans la montagne
avec le bouchon sur les routes qui lient la ville et la montagne. Effectivement, on va dans la montagne, on prend un repas ou alors on y loge une nuit. C'est assez sympa. Il fait déjà dans la montagne, c'est déjà moins chaud qu'en ville en été.
Alors c'est vrai que les paysans hein, locaux ont retrouvé une activité supplémentaire hein, qui est le tourisme dans les montagnes.
Oui, c'est une monde. On appelle le tourisme de week-end. Donc c'est le tourisme de loisirs de la ville. C'est vrai que les gens ont de la chance d'être à côté d'une montagne. Je pense à en France, les gens de Chambéry ou les Lyonnais, facilement pour nous, il faut traverser 10 heures la France pour y aller dans la montagne. Alors eux, c'est une, deux heures, ils sont dans la montagne déjà. Donc,
même pas,
ouais, c'est à côté.
Et on la voit quand il fait clair, on voit la montagne quand on est en hauteur à Xi'an.
Quand j'étais petit, oui. Et après, quand j'étais au lycée, collège, non, parce qu'il fait assez pollué. C'est une ville industrielle, hein, il faut le dire. Par contre, maintenant, oui, on peut revoir la ville depuis le centre. Mmh.
Voilà, et puis oui. Donc, c'est vrai aussi, j'étais étonné qu'il y a beaucoup de petits étangs de pêche privés où on fait à manger, tout ça, c'est sympathique, ça.
Oui, c'est sympa, c'est des villages, en fait, dans le village, on dit nongjiale, comment dire, des petits jardins de loisirs de campagne, hein, dans lesquels ils font une cuisine assez locale, une cuisine simple, familiale, et avec des produits, que ce soit les poules ou le poisson, très frais, élevé, ou l'écume de leur potager, et ils font une cuisine assez simple, c'est assez bien pour le week-end, petite soirée entre les amis, entre famille.
Alors c'est vrai que quand on parle d'amis à Xi'an, ils acceptent volontiers les étrangers, hein.
Bah, on est
intégrés là-bas, et il y a une vraie convivialité, enfin c'est le plaisir d'échanger.
Bah, déjà en Chine, ils sont assez accueillants, et puis surtout dans la vie de Xi'an, nous avons cette grandeur, je pense, que de la Chine ancestrale, cette tradition d'accueillir les étrangers qui viennent souvent de l'Ouest, mm-hmm. de l'Occident, que ce soit les Arabes, les Perses ou les Européennes. Nous avons dans le temple Pelin, donc le forêt de stèle, nous avons un morceau de stèle qui est gravé pendant la dynastie des Tang, c'est-à-dire 1500 ans d'ici, la propagation de chrétiennisme en Chine, mm-hmm. Ordonné et encouragé par l'empereur. Donc il y a cette histoire qui est racontée, on est toujours... je pense qu'en Chine, c'est un peuple confiant qui aime soi-même et qui aime ce qui est différent aussi, qui sont accueillants. Donc il faut avoir la confiance de soi pour aimer les autres, je pense.
Voilà, et puis qui aime bien boire et manger. Alors pour boire, il y a la bière maintenant, mais il y a aussi le thé. Alors pour le thé, pour la culture du thé, il faut de l'eau. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a beaucoup d'eau dans cette province.
Dans la province, si, dans la province de Qinling, il y en a, surtout, qui est très connu, qui s'appelle Wuzixianghao en chinois. C'est le thé qui est cultivé surtout dans la ville de Hanzhong, dans le sud de la province. Bon, c'est la montagne, on dit déjà, c'est la limite entre nord et sud. Hein. Le thé, c'est un produit du sud en Chine.
Et Ankan, il y a le thé aussi à Ankan.
Ankan aussi, dans le sud, dans la montagne.
Ouais.
Dans le Qinling, en fait.
J'aime bien ce thé-là. D'ailleurs, on va donner la parole à Guang Guanghan, puisque l'idée d'un musée du thé à Lille commence à bien prendre forme. Et je pense que le thé de Ankan prendra sa place tout naturellement dans la présentation un jour.
Parce que le thé en Chine, c'est tellement varié. Un type de thé à Ankan, c'est très intéressant. Et aussi, c'est très rare. Ça, c'est une sorte du thé en Chine, c'est très rare. Aujourd'hui, ça va devenir un thé très cher. Très cher, oui. Donc, vous avez des chances.
Alors, il est particulier parce qu'il a du sélénium, hein, dedans, donc il est intéressant,
oui, sûr,
pour,
oui,
la santé aussi. Hein.
Bien sûr. Donc, bon, aujourd'hui, là, quand on boit du thé, ce n'est pas uniquement pour le soif, hein, c'est uniquement... Aujourd'hui, c'est élargir le sens pour la santé.
Ouais.
Absolument, oui.
Alors, on fait un petit point sur l'actualité du musée.
Alors, l'actualité, donc, le projet qui se présentait à la mairie, je crois que mi-juin, va décider et comment nous aider pour réaliser un peu sur les travaux. Hein. Et la Chine et le Taïwan, etc., ce sont des amis qui fabriquent du thé. Ils sont tous prêts de venir. Ensuite, nous sommes en train d'organiser pour l'année prochaine donc un grand concours international du thé, peut-être aura lieu à Lille. Ensuite, donc, la Chine qui soutient ce projet, et parce que... tout à l'heure, vous parlez de la route de la soie, et aussi il y a la route du thé. Voilà.
Ouais.
On dit la route des cavaliers du thé. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Le projet, si un jour on réalisait, je crois que c'est une très bonne idée, et très, très, très bon projet pour la Lille.
Ben, on attend ça avec impatience, bien sûr.
Oui.
Lirwan, est-ce qu'on peut avoir une idée des échanges possibles entre, justement, le Shaanxi et notre région Hauts-de-France, par exemple, puisque la région Hauts-de-France est déjà plus ou moins partenaire avec une région du sud-est de la Chine, enfin vers Shanghai, un peu au-dessus.
Oui, de Zhejiang. Ouais, Zhejiang, la région Hauts-de-France, est jumelée avec la province du Zhejiang, qui est très dynamique économiquement, où il y a beaucoup de ressortissants de la ville de Wenzhou et les régions autour, en France, en Europe. Je participais un peu cette coopération avant Covid. Avec la province de Shanxi, je pense notamment, par exemple, l'agriculture. Nous avons un grand pôle agroalimentaire dans le nord et que Shanxi, c'est une, par exemple, de là où on parle du thé, entre autres, ça fait partie des produits de la province. Donc comment faire quelque chose de plus nutritionnel, plus saine, et puis comment mieux cultiver, conserver, transformer les aliments. Je pense que ce sujet pourrait être intéressant pour la région Hauts-de-France. Je pense aussi les coopérations touristiques. Comme la région Hauts-de-France a beaucoup de patrimoine historique, et la ville de Xi'an aussi, je pense que là-dessus, on pourrait peut-être créer des dynamiques mutuelles dans le tourisme, également dans tout ce qui est innovation, dans les recherches et dans l'innovation, parce que nous avons une grande capacité de recherche et innovation dans le nord de la France avec les universités de Lille. Je pense là-dessus, on pourrait trouver des points communs. Je pense que de façon générale, les possibilités sont larges et sont juste. Il faut les exploiter, il faut les creuser. Je suis assez confiant. C'est vrai que c'est depuis seulement 2018 qu'on avait commencé. J'ai commencé en fait à créer en fait des liens entre la province du Shanxi et la France. Il y a beaucoup de travail à faire. Je profite de votre radio pour passer le message. Donc nous sommes très ouverts à créer des liens commerciaux, économiques, scientifiques avec les régions françaises, et y compris bien sûr la région Hauts-de-France.
Alors, la crise Covid a mis un frein à beaucoup de choses, bien sûr. Est-ce que de cette crise peut naître une réorientation, peut-être positive, de certains axes d'échange, notamment commerciaux ?
Je pense que déjà on a changé un peu les modes de communication. Hein. Ça fait les gens voyagent moins, donc ils utilisent beaucoup le visiophone et le téléphone, etc. Donc je pense que dans les échanges futurs, peut-être on aura moins besoin de voyager. On pourrait faire plus d'échanges via ces canaux de communication plus modernes. On pourrait exploiter davantage les ports de Dunkerque dans la région. C'est qu'aujourd'hui on utilise plutôt on a Havre, soit on a les ports belges. C'est vrai que en milieu nous avons aussi ce port de Dunkerque qui n'est pas assez exploité pour les échanges entre l'Europe et la Chine. Donc là-dessus, peut-être, si de toute façon maintenant, il y a beaucoup de choses à revoir, à redessiner, peut-être c'est le moment d'y réfléchir.
Voilà, en tout cas, effectivement, malgré tous les outils de communication, rien ne vaut la présence en direct. On vous remercie beaucoup, Monsieur Li Huan, d'être venu aujourd'hui, d'être dans ce studio en direct. Et bien sûr, Guo Guangran aussi, pour la suite. Hein, on reste en lien pour la suite des aventures de ce musée du thé à Lille.
Oui, bien sûr, merci.
Bon courage.
Très bonne journée à vous et bon appétit.
Merci.
湖水是你的眼神，梦想漫天星辰，心情是一个传说，亘古不变的等候。成长是一扇树叶的门，童年有一群亲爱的人，春天是一个路程，沧海桑田的拥有，那些我爱的人。 那些历史的风，那些永远的誓言一遍一遍。那些爱我的人，那些沉淀的泪，那些永远的誓言一遍一遍。湖水是你的眼神，梦想漫天星辰。 是一个传说，亘古不变的等候。成长是一扇修业的门，童年有一群亲爱的人。春天是一段路程，沧海桑田的拥有。那些我爱的人，那些离去的风，那些永远的誓言一遍一遍。那些爱我的人，那些沉淀的泪，那些永远的誓言一遍一遍。我们都曾有过一张天真而忧伤的脸，受过阳光，我们望着遥远。我们是否还会再唱起心姻缘？轻轻的一天天一年又一年，长大间我们是否还会再唱起心姻缘？长大间我们是否还会再唱起心姻缘？